I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.
Bienvenue sur Radio Grand Ciel pour une halte d'un quart d'heure au Jardin de Parole, une émission de Michel Giroux.
I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day...
Installez-vous, prenez place pour écouter nos invités ou vous présenter des discours qui les ont nourris spirituellement. Aujourd'hui, c'est Émilie Glory, directrice d'antenne et de programmation, qui va vous dire d'abord des extraits d'une conférence de Jane Goodale. Nous la retrouverons ensuite et elle répondra à quelques questions.
Je me rappelle la première fois que j'étais à Gombe en 1960. Je m'en souviens comme si c'était hier. La première fois que je pénétrais la végétation, les chimpanzés me fuyaient pour la plupart, même si certains se sont un peu habitués. J'aperçus cette masse sombre juchée au-dessus d'un nid à termites et j'observais attentivement avec mes lunettes. C'était un adulte mâle que j'ai surnommé David Barbe Grise. Au passage, la science de l'époque ne me recommandait pas de nommer les chimpanzés. Ils devaient avoir des numéros, c'était plus scientifique. Passons. David Barbe Grise, et je l'ai vu de mes yeux, arrachait des herbes et les utilisait pour pêcher des termites dans leur nid souterrain. Et en plus de cela, il utilisait parfois une brindille à feuilles et en enlevait les feuilles. Modifier un objet pour le rendre utile à un but spécifique, le début de la fabrication d'outils. La raison pour laquelle j'étais tellement excitée par cette découverte, c'était qu'à l'époque, on pensait que les humains et les humains seuls utilisaient et fabriquaient des outils. Quand j'étais à l'école, nous étions définis comme l'homme, le fabricant d'outils. Alors quand Louis Leakey, mon mentor, apprit la nouvelle, il dit « Ah, eh bien, nous devons à présent redéfinir l'homme, redéfinir l'outil ou accepter les chimpanzés comme humains ». Il semble que ces connaissances sont transmises de génération en génération via l'observation, l'imitation et la pratique, la définition de la culture humaine. Ce que nous avons trouvé, c'est qu'après ces 40 ans passés à étudier les chimpanzés et les autres grands singes, nous avons découvert qu'il n'y avait pas de frontière précise qui sépare les humains du reste du royaume animal. C'est une frontière très floue qui le devient de plus en plus quand nous voyons des animaux faire des choses que nous pensions, de manière arrogante, être une exclusivité de l'homme. Les chimpanzés, ils ont cette longue enfance, 5 ans, à être allaités et à dormir avec leur mère, et ensuite 3 à 5 ans de dépendance émotionnelle envers la mère, même quand un nouveau bébé naît. Apprendre est crucial à cette période, quand le comportement est flexible, et il y a des tonnes de choses à apprendre dans la société chimpanzée. Les liens affectifs très forts développés durant cette enfance avec la mère, les frères et les sœurs peuvent durer une vie entière, une vie qui peut atteindre les 60 années. Nous avons découvert que les chimpanzés pouvaient exprimer de la compassion et de l'altruisme. Dans leur communication non verbale, qui est très riche, ils utilisent beaucoup de sons adaptés à chaque contexte. Mais ils peuvent aussi se servir du toucher, de posture et de la gestuelle. Et que font-ils ? Ils s'embrassent, s'étreignent, se tiennent la main, ils se tapotent le dos, ils fanfaronnent, secouent leurs poings, le genre de choses que nous faisons. Nous avons vu qu'ils exprimaient des émotions assez similaires à celles que nous décrivons, comme la joie, la tristesse, la peur, le désespoir. Ils connaissent la souffrance physique et psychique. Ils ont un sens de l'humour et ce genre de choses qui étaient pensées comme des prérogatives humaines. Ceci nous enseigne un nouveau respect, et c'est un nouveau respect pas seulement pour les chimpanzés, mais aussi pour les autres fascinants animaux avec lesquels nous partageons cette planète. Une fois que nous serons capables d'admettre que nous ne sommes pas les seuls êtres dotés de personnalité, d'esprit et par-dessus tout de sentiments, nous commencerons à penser à la manière dont nous utilisons et abusons tant de créatures sensibles sur cette planète. Nous comprendrons que nous devrions avoir honte, à mon avis. La triste nouvelle, c'est que ces chimpanzés, qui auront plus que toute autre créature réussi à nous enseigner un peu d'humilité, sont en train de disparaître rapidement de la nature. Ils sont en train de disparaître en plein cœur des montagnes africaines pour différentes raisons que vous ne connaissez que trop bien. La déforestation, la croissance démographique qui demande plus d'espace. Ils disparaissent à cause d'entreprises forestières qui coupent de manière disproportionnée, à cause de multinationales, de l'abattage, qui viennent et font des routes pour extraire du pétrole ou du bois. Les pygmées du bassin du Congo, qui vivaient avec respect et harmonie pendant des centaines d'années, sont maintenant corrompus. On leur donne des armes, ils chassent pour les entreprises, ils reçoivent de l'argent. Leur culture est en train d'être détruite en même temps que les animaux dont ils dépendent. Au final, quand les sites d'abattage ferment, il ne reste plus rien. La destruction de la diversité culturelle humaine, eh bien je l'ai vue de mes propres yeux. Que voyons-nous en Afrique ? Et j'aime l'Afrique. Nous voyons de la déforestation, nous voyons le désert qui s'étend, nous voyons de la famine massive, nous voyons la maladie, ainsi que des populations se développant dans des zones où les capacités de la terre sont tout simplement insuffisantes pour leur survie. Ils sont trop pauvres pour s'acheter de la nourriture. Ces gens dont on parlait jadis sur l'île de Pâques, qui ont coupé leur dernier arbre, étaient-ils stupides ? Savaient-ils ce qui était en train de se passer ? Bien sûr que oui, mais quand on connaît la pauvreté alarmante dans ces régions du monde, la question n'est pas de savoir s'il faut laisser cet arbre pour demain, mais comment vais-je nourrir ma famille aujourd'hui ? Je vais peut-être récupérer quelques dollars de plus avec ce dernier arbre qui nous permettra de tenir un peu plus longtemps, et puis nous prierons pour que quelque chose nous sauve de notre fin inévitable. C'est une image bien sinistre. La chose que nous possédons et qui nous différencie principalement des chimpanzés et des autres créatures, c'est notre langage complexe. Un langage qui nous permet de parler à nos enfants de choses qui ne sont pas là, de notions théoriques. Nous pouvons parler du passé, imaginer le futur, débattre sur des sujets avec les autres pour que les idées s'améliorent, avec la connaissance du groupe. Et nous gâchons cette faculté incroyable en détruisant le monde. Dans les pays développés, c'est même pire car nous avons toute l'information nous permettant de comprendre la stupidité de nos actes. Comme vous le savez, je parcours le monde. J'ai dû quitter la forêt, là où j'aime être. J'ai dû quitter ces fascinants chimpanzés car, découvrant que leur nombre était passé de 2 millions il y a 100 ans à 150 000 maintenant, j'ai compris que je devais faire ce que je pouvais pour en faire prendre conscience à travers la planète. Et plus je parle de la situation désespérée des chimpanzés, plus je réalise à quel point tout est interconnecté. Les problèmes du tiers-monde proviennent trop souvent de l'avidité du monde développé et cela s'assemble parfaitement pour donner du non-sens. En parcourant le monde, je n'ai cessé de rencontrer de jeunes personnes qui avaient perdu espoir. Ils pensaient « Bien, ce que nous faisons ne changera rien. Bois, mange et sois gai car nous mourrons demain. » C'est pourquoi en 91, en Tanzanie, j'ai lancé un programme appelé « Roots and Shoots ». C'est un programme pour l'espoir. Les racines permettent une fondation solide. Les pousses semblent minuscules, mais pour avoir de la lumière, elles peuvent détruire des murs de briques. Voilà notre message d'espoir. Le message le plus important de Roots and Shoots, c'est que chaque personne peut faire la différence. Chaque individu a un rôle à jouer. Les enfants me demandent « Docteur Jane, est-ce que vous avez de l'espoir pour notre avenir ? Vous voyagez ? Vous voyez toutes ces choses horribles qui se passent ?» Premièrement, le cerveau humain. Je n'ai pas besoin d'en dire plus. Maintenant que nous savons quels sont les problèmes dans le monde, les cerveaux humains comme les vôtres s'activent pour résoudre ces problèmes. Deuxièmement, la résilience de la nature. Nous pouvons détruire une rivière et la ramener à la vie, avec du temps et un peu d'aide. Et troisièmement, l'indomptable esprit humain. Nous sommes ici entourés par les personnes les plus fascinantes qui font des choses qui semblent impossibles. Donc oui, il y a de l'espoir. Mais où est l'espoir ? Est-il dehors avec les politiciens ? Il est dans nos mains, il est dans les miennes et les vôtres et celles de nos enfants. Cela dépend vraiment de nous. Nous sommes ceux et celles qui peuvent faire la différence. Si nous vivons en prenant soin de ne laisser que la plus légère empreinte écologique possible, si nous achetons les choses qui sont éthiques et n'achetons pas celles qui ne le sont pas, nous pouvons changer le monde en une nuit. Voilà, c'était donc une traduction d'Éric Bougnavat. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day... Merci, Émilie. Peux-tu nous rappeler de qui est ce discours? Alors, c'est donc un extrait de conférence de Jane Goodall, qui est donc une scientifique, spécialiste des primates et plus spécifiquement des chimpanzés comme on l'a découvert donc dans cette conférence. Une conférence qui date de 2007, c'est quelque chose qui est assez récent, qu'elle a donné dans un cadre un petit peu particulier. C'est un organisme qui s'appelle TED et qui propose en fait des conférences disponibles ensuite gratuitement sur internet pour proposer comme ça des sujets de réflexion sur des tas de thèmes différents. Donc Jane Goodall s'est pliée à ce petit exercice en 2007.
D'accord. Pourquoi as-tu choisi ce discours de Jane Goodall sur les chimpanzés en particulier ?
Alors, ce qui m'intéressait, c'est déjà que le parcours extraordinaire de Jane Goodall, qui est un petit peu, qui est même complètement résumé dans ce discours-là, puisqu'elle fait référence à ses tout premiers souvenirs de travail avec les chimpanzés en 1960. C'est une pionnière, Jane Goodall, dans le domaine, dans son domaine scientifique, mais aussi par rapport à un discours écologique qu'on sent très bien dans le texte que je vous ai proposé. C'est l'une des premières qui a commencé à alerter, puisque c'est aussi quelqu'un qui était sur le terrain depuis très très longtemps. Et ce qui m'intéressait dans ce discours-là, aussi et surtout, et à mon avis c'est ce qu'il a d'original, c'est ce qu'on devine par rapport à ce qu'elle appelle la culture des chimpanzés. C'est une des premières scientifiques à avoir montré peut-être la voie pour étudier une société, une culture animale. C'est un thème qu'on entend un petit peu, en tout cas de plus en plus aujourd'hui. Et c'est une des premières voilà, qui a fait la constatation en restant vraiment au plus près d'une colonie de chimpanzés en Tanzanie. Elle s'est rendue compte qu'on avait beaucoup de préjugés et elle a fait évoluer vraiment sa discipline, mais aussi notre rapport à l'animal.
Le regard qu'on a sur l'animal.
Voilà. Et ça, c'était quelque chose qui était très important pour moi parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de réchauffement climatique, de toutes ces choses terribles qui arrivent un peu partout. Et c'est vrai que parmi les principales victimes de ce réchauffement climatique, il y a quand même les animaux, la biodiversité en général. Et c'est pas quelque chose à prendre à la légère, et c'est le message de Jane Goodall, parce que voilà, elle, ce qu'elle dit, c'est qu'on a beaucoup à apprendre des animaux, et surtout, ils sont très surprenants, puisque finalement, la science qui étudie les animaux, c'est une science qui est vraiment, j'allais dire jeune, mais oui, c'est une science qui est jeune, voilà, c'est, vraiment, elle a décollé au 19e siècle, donc il y a des tas de choses à apprendre, et donc Jane Goodall fait partie de ces pionnières.
Merci et à bientôt, chers auditeurs de Radio Grand Ciel, pour une prochaine halte au Jardin de Parole.
Out of the night that covers me, black as the pit from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. In the fell clutch of circumstance, I have not winced nor cried aloud. Under the bludgeoning of chance, my head is bloodied but unbowed. Beyond this place of wrath and tears looms but the horror of the shade, and yet the menace of the years finds and shall find me unafraid. It matters not how straight the gate, how charged with punishments the scroll. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. Thank you.